franceinter.fr.
Voilà, on pourrait presque dire que les chanteurs disparaissent avec la crise de la biodiversité en France à la une, avec un printemps qui sera certainement bien plus silencieux cette année et des pare-brises plus propres, car hélas, insectes et oiseaux disparaissent à un rythme catastrophique. 30% des petits oiseaux sont morts depuis les années 2000, 55% depuis 1980, et la mise à jour des indicateurs du programme Stock de surveillance ornithologique montre justement que les oiseaux meurent majoritairement de faim, faute d'insectes pour nourrir les petits. Axel, on en discute avec notre invité qui a participé justement au comptage.
Oui Mathieu, nous sommes avec Frédéric Giguet, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle, ornithologue et vous êtes coordinateur de ce réseau Stock. Alors c'est aussi simple que ça, les oisillons n'ont rien à manger ?
Alors ça pourrait être aussi simple, c'est forcément plus complexe parce que c'est la nature. Mais globalement, les espèces dont on parle, qui sont en fort déclin, c'est les espèces communes qu'on va trouver dans les campagnes, dans les champs, qui sont encore abondantes, mais dont les effectifs diminuent très fortement. Et ce sont de petits oiseaux qui ont des cycles de vie assez courts, ce qui fait qu'effectivement, le déclin des populations est dû à un non-renouvellement des individus morts par des jeunes. Et effectivement, s'il y a moins de jeunes produits, ben on va avoir un effet qui va se voir très rapidement sur l'abondance.
Mais c'est quelque chose que vous déduisez, que vous démontrez, ou c'est une supposition, ce lien avec la disparition des insectes ?
Alors, quand on fait des études à l'échelle nationale, on a forcément un constat de baisse des effectifs. Et après, on a plusieurs études locales, notamment celle du CNRS, qui a été fait dans les Deux-Sèvres, hein, qui est associée à cette information, où au niveau local, on constate effectivement que il y a de moins en moins d'insectes, puisqu'ils ont des mesures précises, qu'il y a de moins en moins d'oiseaux, et que dans les nids des oiseaux, on a moins d'œufs et moins de poussins qui arrivent à survivre.
C'est un centre expérimental, en fait, qui existe là-bas ?
Alors, c'est une zone atelier où il y a des zones qui sont suivies de manière assez précise, avec des relevés sur les pratiques agricoles, les différentes cultures mises en place, et des suivis sur tout un cortège d'espèces, aussi bien végétales que invertébrées et vertébrées. Donc ça va jusqu'aux outardes, aux busards, à des espèces un peu patrimoniales qui ne sont pas si communes que ça. Mais le croisement des deux informations nous permet effectivement d'être assez confiants sur le fait que c'est bien ces pratiques agricoles telles qu'elles existent dans notre Europe occidentale qui sont responsables de ces déclins.
Alors précisément, qu'est-ce qui se cache derrière ce grand terme pratiques agricoles ?
Alors, bon, il faut aussi, pour remettre en perspective, comprendre que ces déclins, ils sont en cours depuis longtemps. Dans certains pays comme la Suède et le Royaume-Uni, on a des comptages depuis les années 60 et dès les années 70, la biodiversité en milieu agricole diminue et on a de moins en moins d'oiseaux. Les raisons, elles sont diverses. Donc c'est l'intensification des pratiques, l'agrandissement de la taille des parcelles, la mécanisation, les densités de semis, la croissance des végétaux aussi exploités, qui est beaucoup plus rapide. Et puis, on a eu quelques mesures qui étaient un petit peu favorables, comme la mise en jachère, mais qui s'est stoppée en 2008-2009.
C'est une bonne initiative, pourtant ?
Alors, c'était une bonne initiative, parce qu'il y a à peu près 5 ou 10% des terres qui étaient gelées, où les sols devenaient permanents, ce qui veut dire que les pontes d'insectes pouvaient y survivre pendant l'hiver, et que c'était de véritables nids pour recoloniser ce milieu artificialisé au printemps suivant. Cette disparition, effectivement, anéantit une grande partie des populations d'insectes en milieu agricole.
Mais si on se projette un petit peu dans le futur, des terres agricoles, des zones agricoles sans insectes et sans oiseaux, ça donne quoi ?
Ça donne pas grand-chose, normalement, parce que cet écosystème restera productif s'il est vivant. Donc, on s'inquiète beaucoup, notamment dans la dernière réforme de la PAC, de maintenir des sols, une structure de sol qui puisse permettre cette agriculture, d'où l'idée d'interdire les chaumes et les labours en hiver, et les sols nus en hiver, et d'imposer un couvert végétal pour qu'il n'y ait pas de lessivage des sols, pour que les pesticides ne descendent pas trop vite dans les nappes phréatiques. Et en fait, ça a eu un effet dévastateur sur le reste de la biodiversité, parce que ça augmente le nombre de traitements du sol, de labour, et ça interdit à toute la flore adventice qui allait pousser en automne de produire des petites graines qui allaient être indispensables pour la survie des oiseaux en hiver dans les champs.
Est-ce qu'il y a des bonnes nouvelles quand même ? Est-ce qu'il y a des espèces qui s'en tirent bien ? Des régions en France où les populations se maintiennent correctement ?
Alors, dans les bonnes nouvelles, il y a deux choses. Il y a des espèces qui se portent bien aussi, mais c'est c'est pas tellement une bonne nouvelle. En fait, c'est les espèces généralistes qui peuvent vivre dans les habitats dégradés et qui vont finalement prendre la place des espèces un peu plus spécialistes qui aimaient bien des habitats particuliers. Donc on a une sorte d'uniformisation, on va finir par avoir les mêmes espèces, le pigeon, le merle, un petit peu partout. Et l'autre type de bonne nouvelle, c'est que grâce à ces données stock, on peut analyser l'évolution des populations d'oiseaux dans différents types de situations. Dans des zones où l'agriculture est moins intensive, où il y a plus de prairies, etc. Et on s'aperçoit qu'il y a des choses qui marchent, notamment les mesures agri-environnementales arriver à maintenir les populations d'oiseaux en milieu agricole. Donc il faut arriver à généraliser ce type de mesures, à changer notre système de production agricole.
Vous espérez pouvoir faire changer la courbe dans les années qui viennent, ou c'est le pessimisme qui est de mise là pour le moment?
Alors, c'est plutôt le pessimisme, parce que avec les informations qu'on a eues ces dernières années sur la volonté de réduire les intrants agricoles de 40%, sur l'interdiction probable de certaines molécules très nocives pour l'environnement, on s'attendait à ce que les populations d'oiseaux, d'insectes en milieu agricole se stabilisent, et ça n'est pas le cas. Donc il faut vraiment un changement en profondeur de ce système.
Voilà, 30% des oiseaux morts donc depuis les années 2000, des petits oiseaux, et 55% depuis les années 80. Merci Frédéric Giguet, publication qui a eu beaucoup d'écho depuis sa sortie hier. Et Axel, on se retrouve demain.
À demain.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, non, les demandeurs d'asile ne sont pas porteurs de maladies graves comme le sida ou l'hépatite B. Une étude de l'Office bavarois pour la santé et la sécurité alimentaire montre que seuls 0,3% des réfugiés sont séropositifs, un taux très proche de celui de la population allemande qui est de 0,1%. Stéphanie Samet, qui est infectiologue au CHU de Munich, constate qu'il règne une certaine hystérie autour du fait que ces personnes viendraient ici et qu'elles amèneraient des maladies infectieuses. Ça n'est pas le cas. Une infection fait exception cependant. Elle préoccupe les chercheurs, celle de la tuberculose. En 2015, un tiers des réfugiés étaient atteints, en cause les conditions précaires d'hygiène. Le premier code juridique de l'animal publié aujourd'hui en France, un volume d'environ 1000 pages qui rassemble les textes issus des codes officiels mais aussi des décisions de jurisprudence. Ce code destiné aux magistrats, procureurs, avocats et vétérinaires a pour vocation de donner une vision complète de la question de la protection animale. 30 000 euros d'amende, 2 ans d'emprisonnement sont notamment les peines encourues pour sévices graves et actes de cruauté commis envers les animaux domestiques ou tenus en captivité. Les associations de défense des animaux espèrent à terme voir apparaître dans le code civil la reconnaissance de la personnalité juridique des animaux. Et puis pour terminer en images, voici 12 nouvelles captures pour Hubble pour compléter le catalogue Messier. En 1774, l'astronome français Charles Messier avait découvert 106 objets immobiles dans le ciel qu'il avait répertoriés dans un catalogue. La nébuleuse du Crabe, la galaxie d'Andromède, tant d'objets observables avec un télescope amateur. Eh bien, le télescope Hubble, lui, avait réalisé des captures colorisées de 93 d'entre eux, montrant ainsi ces beautés de notre ciel. Et ces 12 derniers clichés sont disponibles sur la page Facebook de La Tête au Carré.